comme le point de vue intériorité, le point de vue de l'immanence de la forme est beaucoup moins grand, oui, vous pouvez plus facilement saisir qu'il est autre. Tout simplement les deux. Et des deux côtés, mon jugement d'existence atteint ce qui est. Même si ce qui est moins parfait, il est quand même. Et dans le jugement d'existence, je ne regarde pas la perfection de la forme, je regarde qu'il est. C'est la seule chose que je regarde. Je ne regarde pas la perfection. Et donc, au point de vue perfection de mon jugement d'existence, la perfection de mon jugement d'existence consiste à atteindre qu'il est. Et non pas la modalité. Que son être soit plus parfait, soit moins parfait, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pour ça que je vous disais en riant que le jugement d'existence, c'est l'œcuménisme de toute la partie de la philosophie. Et c'est vrai, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose de commun. J'existe, ceci est. Cette table existe. Alors là, vous avez les deux jugements d'existence qui tiennent à la fois à l'intériorité et à l'extériorité. Le tout, c'est d'atteindre au-delà du moi, l'existait. Au-delà de la forme expressive, l'existait. Et mon jugement d'existence est vrai, mon jugement d'existence est parfait quand il est justement vrai, c'est-à-dire qu'il atteint vraiment l'autre comme autre, dans son existence. Donc il y a le dépassement à l'égard même de tout le conditionnement. Mais qu'il soit deux jugements d'existence très extrêmes, et les modalités par lesquelles je l'atteins sont tout à fait différentes, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour la perfection du jugement d'existence. Parce qu'autrement, autrement, vous restez toujours, vous liez et vous maintenez toujours un lien entre telle forme et l'existé de cette forme. Telle modalité d'être et l'être. Or, justement, dans le jugement d'existence, je n'atteins pas telle modalité d'être, j'atteins l'être. L'être en acte. C'est l'être en acte que j'ai dit, parce que c'est par l'être en acte qu'il est autre que moi. C'est ça qui est très important. Si je n'atteignais pas l'être en acte, mais j'aurais pas de métaphysique. J'aurais une philosophie de l'homme, mais j'aurais pas de métaphysique. J'aurais une philosophie de la marche, mais j'aurais pas de métaphysique. J'aurais une philosophie de l'œuvre d'art, mais j'aurais pas de métaphysique. Je resterai au niveau des formes. C'est ce que Platon a fait. Il est resté au niveau des formes. Il n'a pas atteint l'être. Et restant au niveau des formes, il est resté une philosophie de la qualité. Ce que je crois vrai aussi pour Heidegger. Je ne crois pas que Heidegger a saisi plus que la qualité. On peut dire ici. De dire dans certains milieux, parce que les gens hurleraient. Mais c'est pourtant vrai. Pourtant vrai. Je crois qu'il n'a pas atteint plus que la qualité. Il n'a jamais atteint l'être en acte, dans un jugement d'existence. Bon. Alors, il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter quelques minutes pour laisser souffler.
Si on... 27 février 1982, 2e conférence.
L'application du jugement d'existence. C'est très vrai, il y a un danger, mais ça reste quand même un cas privilégié. Il y a la réalité existante, la réalité vivante, mais moi-même, je suis dans une situation très particulière par rapport à mon exister. Il est évident que j'ai une connaissance de mon exister qui est quand même beaucoup plus intime, que irremplaçable. Et donc il faut toujours le garder, mais il faut le corriger par l'extrême, la réalité existante dans sa matérialité, l'œuvre d'art. Et le pain existe. Il existe non pas quant à sa forme particulière, mais il existe en raison de sa matière. La table existe en raison de sa matière, en prenant matière là au sens matière artistique, c'est-à-dire ce qui a été transformé. Et alors là, il y a quand même quelque chose de très spécial qui nous montre un tout petit peu les deux aspects. Vous voyez, par rapport à moi-même, c'est le point de vue du moi, et donc l'aspect de la détermination et de la forme qui est particulièrement forte, et par rapport à l'œuvre d'art, c'est la causalité matérielle qui est particulièrement éloquente. Et donc c'est les deux dépassements de la forme et de la matière qui sont là présents dans le jugement d'existence de ces deux. Bon, il n'y a pas d'autres questions? S'il y en a d'autres, posez-les. Et puis nous allons tout de suite passer à l'induction de la substance. C'est un gros morceau qui est très important à saisir. C'est-à-dire le dépassement de ce qu'on peut appeler les diverses catégories. C'est très important de saisir les catégories, mais il faut les dépasser. C'est très important d'acquérir la vertu, mais il faut la dépasser. C'est un peu la même chose, vous voyez. Vous pourriez faire toutes les catégories vertueuses qui sont en vous. Faites le tableau de vos vertus, surtout des vertus de votre voisine. Alors vous avez les catégories, les grandes catégories. Soit fondamentalement l'unité, le point de vue de la justice, le point de vue... Vous avez toutes les vertus. C'est les catégories, les vertus. Quelqu'un qui ne serait que vertu... qui ne serait que, vertueux, serait catégorial. Uniquement. Extraordinaire. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça fait comprendre, dans leur pratique, ce que c'est que les catégories. Des gens comme ça. Ah, justice. Je veux dire un acte de justice. Tempérance. Un acte de tempérance. Force. Un acte de force. Humilité. Un acte d'humilité. Des gens qui sont prodigieusement humbles. Mais il faut trop sentir qu'il faut un acte d'humilité. Ça existe, ça. C'est merveilleux, mais c'est insupportable. Ouais. Bien, les catégories, au point de vue de la pensée, c'est quelque chose comme ça. C'est merveilleux, mais c'est insupportable. Parce que si vous restez uniquement dans les catégories, vous avez vos tiroirs bien faits, avec des fiches matérielles, et vous avez tous les tiroirs. Alors, vous tirez. La relation, voilà. On va vous servir la relation. On va vous servir la qualité, on va vous servir la quantité, on va vous servir la substance. Alors on vous sert des catégories, qui sont les déterminations dans l'ordre de l'être. Et les vertus sont les déterminations dans l'ordre de l'agir. C'est très intéressant de voir ça. Parce que c'est parallèle, c'est très très parallèle les deux. Mais alors l'avantage, c'est que lorsqu'il s'agit des vertus, vous ne faites pas l'énumération de toutes les vertus. Je ne sais pas combien il y en a. J'aurais dû les compter une fois dans ma vie. Mais vous savez que les vertus, ça fait des petites vertus, ça se produit, il y a une fécondité dans les vertus, elles se multiplient, les petites vertus. La prudence, elle a des quantités de vertus qui sont subordonnées à la prudence. C'est très beau, du reste, de voir ça, parce que ça montre les déterminations qui vont de plus en plus loin. C'est méticuleux, la vertu, toujours. Et donc, ça va dans la spécialisation, vous vous spécialisez dans l'humilité. C'est extraordinaire de se spécialiser dans l'humilité. Alors à ce moment-là, vous voyez bien les déterminations, et c'est vrai, ça fait partie des déterminations. Eh bien, la recherche de la substance, c'est l'au-delà des catégories. Les catégories me donnent des modalités dans l'ordre de l'être, mais ne me donnent pas ce que c'est que l'être. Et ça, il faut tout de suite comprendre. Je crois qu'on peut tous comprendre des catégories comme on peut tous comprendre des vertus. Même si on n'est pas très vertueux, on comprend ce que c'est que la vertu. Si on est très très vertueux, on l'aime. Si on n'est pas très vertueux, elle nous agace. Parce qu'elle nous montre quelque chose que nous n'avons pas encore obtenu. Alors, dans les catégories, on peut tous découvrir ce que c'est que les diverses catégories. Les diverses modalités de l'être. Et dans les catégories, la catégorie suprême, la substance première, qui est le sujet... et l'au-delà des catégories. Je pars des catégories, parce que de fait Aristote part des catégories, et je crois que nous devons partir des catégories. C'est parce que les catégories, c'est vraiment la donnée commune que nous pouvons tous atteindre, assez librement. Alors la substance première, le sujet, ce qui est au-delà, puisque catégorie veut dire ce qui est attribuable, les attributions, ou les attributs, ce qui est attribuable, alors, précisément, c'est la même chose. Hein. Donc, le sujet, c'est l'au-delà de toute attribution. Vous attribuez tout à la substance première. La substance seconde, c'est au contraire l'attribut premier. Qu'est-ce que vous attribuez en premier lieu à Pierre, c'est qu'il est un homme. Première chose que vous attribuez, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus fondamental. Ah oui, vous pouvez avoir quelque chose de plus fondamental en disant il est un animal. Ça, vous pouvez le dire. Pierre est un animal. C'est très très fondamental, ça. Oui, c'est pour ça que c'est la pire des injures. Quand vous déterminez un être par ce qu'il a de plus fondamental. Vous voyez, vous dites espèce d'animal. C'est l'attribution seconde, c'est pas la substance seconde. Puis, trois, la quantité, et ainsi de suite. Vous restez dans les modalités de l'être. Même la substance première reste une modalité de l'être. Et si vous êtes à un niveau plus profond, ce que je vous disais tout à l'heure, par le jugement d'existence, je ne suis plus au niveau des modalités de l'être, je suis au niveau de ce qui est. Comme être, je dois donc m'élever plus loin, faire le dépassement de toutes les catégories. Alors ce serait très intéressant, venez, de montrer le dépassement de toutes les catégories. Ce qui est. Je cherche ce qui est. En tant qu'être, donc au-delà de toutes les modalités, en tant qu'être, je cherche ce qui est en tant qu'être. Et je cherche ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'être. Qu'est-ce qui est premier ? Voilà ce que je cherche. Pourquoi je cherche ce qui est premier ? Parce que tant que je n'ai pas saisi ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'être, je ne saisis pas vraiment l'être. Je risque toujours de confondre ce qui est secondaire avec ce qui est essentiel. Toute connaissance proprement scientifique cherche toujours à saisir ce qu'il y a de premier. Et tant que je n'ai pas saisi ce qu'il y a de premier, je n'ai pas une connaissance scientifique. Je reste dans une connaissance descriptive. L'aspect descriptif peut confondre ce qui est second et ce qui est essentiel. Je décris. Et je décris la complexité d'une chose. Mais dès que je veux une connaissance scientifique, j'ai une connaissance qui analyse et qui ordonne. Parce que le propre de l'analyse, c'est d'ordonner. Qui ordonne et qui ordonne ce qu'il y a de premier et de ce qu'il y a de second. Ça, c'est vrai dans toute connaissance scientifique. Vous voyez, quand la psychologie se veut scientifique, elle veut ordonner. Et dès qu'il y a un certain ordre, il y a une certaine connaissance scientifique. Tout de suite, le propre du sage, c'est d'ordonner. Le propre du savant, c'est d'ordonner. Et donc de saisir là où il y a un premier, là où il y a un second. Eh bien, je veux savoir, je peux considérer tout de suite, hein, c'est la première chose à faire, je peux considérer tout de suite que les catégories sont au niveau des modalités de l'être. Ça, c'est facile à comprendre. Les catégories demeurent au niveau des formes, puisque c'est attribuable, et que la forme, c'est ce qui est attribuable. Et elle montre comment elle est au niveau des formes, parce que justement, qu'est-ce qui est le premier dépassement des catégories ? C'est le sujet. Le sujet est transcatégorial. Mais il est transcatégorial par son indétermination, par son aspect non formel. Le sujet, c'est quelque chose de fondamental et de premier. C'est par le point de vue, c'est par là qu'il est transcatégorial. Mais je ne veux saisir autre chose, je veux saisir non plus les modalités de l'être et ce qu'il y a de premier comme sujet qui reçoit tout, mais je veux saisir ce que c'est que l'être. Donc je me place dans cette perspective et délibérément je sais que je suis dans cette perspective. Je veux saisir ce que c'est que l'être. Donc un au-delà de toutes les catégories et même un au-delà de cette transcatégorie qui est le sujet. Pourquoi ? Parce que le sujet, c'est pas encore l'être. Le sujet, ce n'est pas encore l'être. C'est l'indétermination de ce qui est. C'est ce qui est capable de recevoir toutes les déterminations. Et donc, ce n'est pas l'être. L'être, il se tient par lui-même. Il n'a pas besoin d'être tenu par un autre. Autrement, ce n'est pas l'être. Parce que l'être, c'est justement ce qu'il y a de premier dans la réalité. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. Parce que je dis la vie, ah, c'est une perfection dans l'ordre de l'être. L'intelligence, c'est une perfection dans l'ordre de l'être. Mais je reviens toujours à l'être. Ça, c'est très curieux. Alors, pourquoi l'intelligence revient toujours à l'être? C'est parce que c'est la première chose qu'elle connaît. Primo cadit in intellectu. Hein, je vous l'ai déjà dit. Alors, quand je dis primo cadit in intellectu, est-ce que c'est un axiome? Pas un principe. Est-ce que c'est un axiome de dire primo cadit in intellectu? L'être, c'est la première chose qui tombe dans l'intelligence. Est-ce que c'est un axiome? L'être, c'est la première chose qui tombe dans l'intelligence. Si je vous posais ça, est-ce que c'est un axiome? Vous diriez, toute la philosophie de Saint Thomas repose sur l'axiome. L'être, c'est la première chose qui tombe sur l'intelligence. Ça, il vient bien difficile, bien difficile. Un axiome, c'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Ce n'est pas un principe. C'est ce que tous admettent. Alors, moi, je crois qu'il faut dire que c'est une question d'expérience. C'est au-delà de l'axiome. C'est une question d'expérience. Parce que l'axiome demeure dans l'ordre du possible ou de l'impossible. Il est impossible que, ça c'est un axiome. Il est possible que, ça c'est un axiome. Tandis que quand vous affirmez que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être, c'est la question d'expérience. C'est que c'est le fond même de votre expérience. Et donc c'est quelque chose qui est au-delà, c'est pas un axiome. Donc, nous cherchons ce qui est du point de vue de l'être en premier lieu. Et nous voyons donc que nous sommes au-delà des catégories. Ça, c'est la première constatation qu'on doit faire. Je crois que c'est ça, c'est très important. Mais que, justement, nous cherchons ce qui est premier dans l'ordre de l'être, ce qui est premier dans l'ordre de l'être est arché. Donc, il est principe, puisqu'il est premier. Et comme c'est dans l'ordre de l'être, il est non seulement principe, mais il est cause. Or, le premier dans l'ordre de l'être que nous cherchons ne peut pas être saisi immédiatement. Pourquoi? Parce qu'un principe et une cause, c'est une source cachée que nous ne pouvons pas saisir immédiatement par nos sens. Déjà l'être, je le saisis au-delà des sens dans le jugement d'existence. Et donc le principe dans l'ordre de l'être est au-delà de ce que je peux saisir immédiatement et expérimenter. C'est donc au-delà de toute expérience. Si c'est au-delà de toute expérience, je ne peux l'atteindre que par une induction. Alors ça, il fallait le découvrir. Hein. C'est très facile à dire une fois qu'on a découvert ça. Il faut le découvrir par induction. Qu'est-ce que c'est que l'induction? L'induction, c'est justement le dévoilement de la source au-delà de toute expérience. C'est le dévoilement de la source. Je vais dévoiler quelque chose. Et quand on est sourcier, hein, on sait qu'il y a une source. Oui, le sourcier le sait, il a senti. Il a dépassé toutes les couches successives, il a senti qu'il y avait une source. À 6 mètres, vous allez découvrir que vous autres. L'autre qui n'est pas sourcier, il le croit. Il se met à creuser, il y a une source au plus quelque chose qui jaillit à la vie. Voilà. Alors là, il a l'évidence, une fois que c'est dévoilé. Eh bien, celui qui induit, dévoile. Il dévoile. Il dit qu'il y a nécessairement, il va dire qu'il y a nécessairement quelque chose qui est une source. Et il faudra voir pourquoi il dit qu'il y a nécessairement une source. C'est justement là le problème de l'induction. Hein. C'est de voir comment je découvre qu'il y a une source. Et pourquoi je cherche une source. Je cherche une source, ça c'est l'exigence de l'intelligence. Il veut toujours aller plus loin. Quelquefois, elle ne découvre pas. Parce qu'elle veut découvrir ce qu'il y a de premier. Et tant qu'elle n'a pas découvert ce qu'il y a de premier, elle n'est pas contente. Parce qu'elle ne peut pas ordonner. Et l'intelligence a besoin d'ordonner. Elle a besoin d'ordonner dès qu'elle est en face d'une multiplicité. Quand elle est en face d'une multiplicité, vous savez, elle est mal à l'aise. C'est un petit peu comme un désordre. Quand vous avez des papiers dans tous les sens, ben c'est très bien, c'est très bien. Mais ça n'a pas d'importance. Mais dès que vous voulez chercher quelque chose, c'est très long. N'est-ce pas? Vous remettez, alors que surtout quand il y a des couches successives, hein, alors vous mettez très longtemps avant de redécouvrir. Tandis que quand c'est ordonné, ah, tout de suite, vous allez découvrir tout de suite. C'est le bon, mais pourquoi ordonner? Parce que vous pouvez dire, moi, ça m'est égal. Le désordre, c'est un effet familier. C'est un effet familier, le désordre. J'aime le désordre parce que c'est plus belle, le plus beau désordre. Je peux très bien dire ça, ça fait partie. Je peux très bien peindre une table complètement ordonnée. Ce serait même beaucoup plus beau, n'est-ce pas, que de peindre un ordre, une table très ordonnée. Sans aucun intérêt. Tandis qu'une table tout à fait désordonnée, je me souviens, c'est au seul choix, où Père Chenu avait un désordre remarquable. Comme historien, c'est ennuyeux. C'était désordre parce qu'il mettait les couches sur ses. Alors, j'avais une bonne sœur qui venait, et quand dès que Père Chenu était parti, elle venait mettre de l'ordre. Et quand Père Chenu revenait, il voyait de là, il n'y retrouvait plus rien. C'est bien évident. Et alors, ça l'a sommé de voir cet ordre. Parce qu'on ne redécouvre rien. Quand on sait qu'il y a des couches successives, on se dit, bon, on va retrouver la couche d'il y a un an. Il y a beaucoup de choses qui se sont, mais on retrouvera. Et alors, quand il y a 10 ans, ben, c'est un peu plus longtemps à retrouver. Mais c'est vrai, on découvre les couches. Et là, on peut très bien se familiariser au point de vue pratique avec un désordre, en disant que c'est le plus beau désordre. Parce que l'intelligence, à ce moment-là, est obligée de redécouvrir l'ordre. Tandis que quand elle le projette, elle n'a pas à le découvrir, il existe, il est là. Alors, il faut comprendre que l'intelligence humaine a besoin d'ordonner de multiples manières, toujours. Quand vous connaissez, vous ordonnez. C'est le propre de la connaissance. Vous voyez, la connaissance, ce n'est pas mesurer, mais c'est ordonner. Ce n'est pas la même chose du tout. Parce que la mesure, c'est un ordre extérieur. C'est l'ordre de la bonne sœur qui met les choses au-dessus. Vous voyez bien, qui vient au-dessus, tout ordonner. Alors, qui vient ordonner de l'extérieur, selon sa mesure à elle. Parce que pour elle, c'est ordonné quand les papiers de telle taille sont au-dessus des papiers de telle taille, et là, il y a de petits papiers qui sont dedans. Alors que ça, c'est un ordre très extérieur. C'est un ordre de mesure. Tandis qu'au contraire, quand vous ordonnez de l'intérieur, c'est tout à fait autre chose. C'est pas mesurer. C'est saisir les qualités différentes. C'est saisir les choses différentes. Alors, vous pouvez avoir un ordre selon le temps. Ça, c'est très vrai, vous accumulez. Vous avez quand même un ordre selon le temps. Il y a une chronologie. Et un historien aime ça, l'ordre selon le temps. Le philosophe, il aime mieux un ordre qualitatif. Alors, il y aura les papiers qui traiteront telle ou telle question, les papiers qui traiteront telle ou telle question, et ainsi de suite. C'est un ordre qualitatif, c'est pas du tout la grandeur des papiers. Ça, c'est la mesure en sûre. C'est très intéressant de voir ça, parce qu'au fond, on recherche toujours un ordre. Eh bien, il faut chercher ici l'ordre fondamental. Le premier de tous les ordres. Parce que c'est l'ordre à l'intérieur de l'intelligence. Et tant que je n'ai pas découvert le premier, je ne peux pas ordonner. Je peux décrire, mais je ne peux pas ordonner. Je peux faire des couches successives, les catégories sont des couches successives. Il y a une couche fondamentale, le sujet, puis toutes les autres s'ajoutent. Mais il n'y a pas d'ordre. Il faut découvrir l'ordre dans ce qui est en tant qu'être et découvrir l'arc du principe. Or, je ne peux le faire que par la vie. L'induction est un procédé très difficile de la vie de l'intelligence, puisque l'induction consiste justement à dépasser ce qui est immédiat pour découvrir ce qui est caché, ce qui est à la source. Et vous allez dire, pourquoi ce besoin de chercher ce qui est caché, ce qui est à la source? Est-ce que la source ne pourrait pas être quelque chose d'extérieur? Eh bien non. La source ne sera jamais quelque chose d'extérieur. Pourquoi? Parce que ce qui est extérieur, c'est le sensible. Et l'intelligence dépasse le sensible. Nous sommes âme et corps. Nous sommes intelligence et sensibilité. Or, la sensibilité, c'est ce qu'il y a d'immédiat. Et l'intelligence est toujours un au-delà de la sensibilité. Et nous retrouvons toujours les mêmes problèmes, hein, le visible et l'invisible. C'est l'invisible qu'on cherche, c'est l'arché qu'on cherche, c'est l'invisible, c'est quelque chose de fondamental et de premier. Tandis que ce qui est donné immédiatement dans l'imaginaire, dans la sensibilité, c'est justement ce qui nous est donné dans les catégories. Les catégories, on peut sentir tout ça, on peut le saisir immédiatement. Ce sont des données que nous pouvons décrire. On doit dépasser ce qu'on peut décrire, pour découvrir la réalité dans ce qu'elle a de premier, de fondamental. Le premier qui a fait ça, c'est Aristote. Parce que Platon a parlé de l'ousia, il a parlé. Mais en réalité, Platon est resté au niveau du ousia qualité, du ousia forme. d'une ousia qui soit comme, si vous voulez, la qualité permanente. C'est ce qu'il dit. Il dit que l'ousia, c'est la déesse Estia, c'est la déesse qui demeure dans la maison. La déesse qui demeure dans la maison, c'est justement celle qui est au-delà de tous les mouvements particuliers et qui reste fondamentale. Donc c'est la forme la plus radicale et la plus fondamentale. Mais Platon n'a pas vraiment saisi ce qu'est l'être comme être. Alors comment pouvons-nous dire ça tout de suite? C'est parce qu'il a identifié forme et ousia. Il a identifié forme et être. S'il a identifié forme et être, il n'a donc pas dépassé une des modalités de l'être, qui est la forme, et qui est la modalité la plus générale de l'être. Tout être se donne à moi selon une certaine modalité, une certaine forme. Mais l'être comme tel, dans ce qu'il a de plus profond, est au-delà de la forme. Donc Aristote est le premier qui a découvert vraiment l'ousia comme principe. Alors, il faut se le rappeler, je vais le faire très rapidement avec vous, parce que c'est pas, on ne va pas entrer trop dans la pensée d'Aristote. C'est difficile, la pensée d'Aristote, hein. C'est pas commode, mais c'est intéressant. Alors, c'est dans le livre Zeta, il faut au moins savoir ça, de la philosophie première, de la métaphysique d'Aristote. C'est dans le livre Zeta, où Aristote traite de ce que c'est que l'ousia. Il cherche le ti esti de l'ousia. Qu'est-ce que c'est que l'ousia? C'est intéressant parce que c'est sous une forme d'interrogation. Hein. Qu'est-ce l'ousia? Et c'est pour lui la première question au niveau métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et alors il nous dit tout de suite cette chose très importante à souligner. Nous l'avions déjà, je crois, souligner, mais c'est bon de le ressouligner une seconde fois. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que le toad? Le tiesti du toad. Et Aristote dit tout de suite que le tiesti du toad, c'est le tiesti de l'ousia. Alors ça, c'est très important à bien comprendre. Que le tiesti de l'ousia, c'est le tiesti du toad. Or, Aristote peut dire ça grâce aux catégories. Donc, cette identification du tiesti du toon et de l'ousia se fait grâce aux catégories. On pourrait dire que dans cette perspective, quand il dit ça, il est aussi dans la ligne de Platon. Platon a dit que l'être pris d'une façon parfaite, c'est l'ousia. Donc le tiesti de l'être, c'est l'ousia. Donc on reste à un niveau on est au-delà des catégories, puisqu'on pose la question qu'est-ce que c'est que l'être et qu'est-ce que c'est que l'ousia. Mais cette ousia dont Aristote parle là, c'est l'ousia qui nous est donnée dans les catégories. C'est où l'ousia, c'est avant tout l'ousia première, parce que c'est l'ousia fondamentale, c'est l'ousia qui nous est donnée comme faisant la synthèse de toutes les catégories. Et c'est aussi, d'une autre manière, l'ousia de Platon, l'ousia substance seconde, qui est la catégorie par excellence, la forme par excellence. Alors, on comprend comment, du côté de l'interrogation, sans savoir encore qu'est-ce que c'est que l'ousia, mais tout simplement en prenant l'ousia selon la tradition, selon la tradition des physiciens et de Platon, je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'ousia? Et je dis que s'interroger de savoir qu'est-ce que c'est que l'ousia, c'est la même chose que de savoir qu'est-ce que c'est que l'être. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'ousia qui apparaît comme l'être fondamental ou l'être premier. Donc vous voyez, ça c'est très important. C'est très important à bien saisir que cette interrogation du qu'est-ce que c'est que l'ousia, qu'est-ce que c'est que l'être, s'identifie. C'est la même interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est que l'ousia? Dans la mesure où je creuse l'ousia, je creuse l'être. Parce que, de fait, l'ousia, toutes les philosophes l'ont considéré comme étant ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, ce qu'il y a de plus fondamental dans l'ordre de l'être. Et donc, découvrir ce qu'il y a de plus fondamental dans l'ordre de l'être et découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, c'est vraiment découvrir ce que c'est que l'être. Parce que quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je cherche à découvrir ce qu'il y a de premier et de fondamental dans l'être. J'espère que ça, vous comprenez bien. C'est important au point de vue de l'interrogation. Au point de vue de l'interrogation, c'est la même chose. Alors, il faut bien comprendre. Hein, au point de vue de l'interrogation, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire du tout que l'ousia, c'est l'être pour Aristote. Ce que Gilson a dit. Et alors, à partir de là, Gilson a fait que des quantités donc, qui suivent Gilson, parce que Gilson est considéré comme un maître. Alors, on le suit. Et Gilson, c'est très curieux, tu vois, c'est très très intéressant à voir l'erreur. C'est toujours intéressant de voir l'erreur de quelqu'un d'intelligent, de quelqu'un qui est un grand historien. Il fait une erreur ici. Il identifie, il dit, puisque Aristote dit que le tiesti du Thoron et le tiesti de l'ousia, c'est la même chose, ça prouve que pour lui, l'être et l'ousia, c'est la même chose. Alors, vous voyez que c'est très faux. Pour Aristote, l'ousia n'est pas l'être, puisque Aristote reconnaît qu'il y a les 10 catégories. Si l'ousia était l'être, il n'y aurait pas 10 catégories. Il y aurait que l'ousia, c'est tout. Tout le reste, ce serait des non-êtres. Si on reconnaît que l'ousia, si on reconnaît la trappe des catégories, les 10 modalités de l'être, on ne peut pas identifier l'ousia et l'être. Mais on peut très bien comprendre que c'est la même interrogation, c'est pas la même chose du tout. L'interrogation, c'est du côté de l'intelligence. C'est l'intelligence qui cherche à comprendre l'interrogation. Or, quand on cherche à comprendre, ce qu'on comprend n'est pas identique à la réalité. Oui, l'idéalisme de Gilson. Il n'a pas été jusqu'au bout du réalisme. Il n'a pas compris qu'on ne peut pas identifier ce qu'on comprend et la réalité. Ce qu'on comprend de la réalité et la réalité existante. La réalité existante est toujours plus que ce que vous connaissez, heureusement. Parce que si la réalité de la communauté se ramenait à ce que vous connaissez de la communauté, triste communauté. Ce que vous connaissez de votre communauté n'est pas votre communauté. Ça fait vrai. Il y a une Dieu qui, par sa connaissance, sa connaissance est identique à la réalité. Et ça, c'est le privilège de Dieu. Ce que je connais d'une chose n'est jamais la réalité de cette chose dans ce qu'elle a de plein pied, dans son existence propre. Donc, je comprends comment le tiesti, qui est du côté de l'interrogation, donc qui est du côté de l'intelligence, le tiesti du Thoron peut s'identifier au tiesti de l'ousia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligibilité profonde de l'être se ramène à l'intelligibilité profonde de l'ousia. C'est l'intelligibilité profonde, c'est dans mon interrogation. Quand je veux connaître ce que c'est que l'être, eh bien, connaître ce que c'est que l'être se ramènera à connaître ce que c'est que l'ousia. Pourquoi? Parce que l'ousia est l'être en premier lieu. L'être radical. Si je connais ce qu'il y a de premier, je connais ce qu'il y a de second. Oui. Ce que dit saint Thomas, quand on connaît la tête, on connaît le tout. Quand on connaît la partie principale, on connaît le tout. On va très loin. La vie contemplative est la partie principale de l'Église. Alors vous voyez, connaître la vie contemplative, c'est connaître l'Église. On dit ça aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez un mauvais traité d'Église. Non, c'est un très bon traité de l'Église. Si vous prétendez connaître l'Église et que vous oubliez la partie principale de l'Église, vous ne connaissez pas l'Église. C'est très important de comprendre ça. Et c'est ça, c'est l'interrogation. Qui est-ce qui tourne l'Église? Vous mettez ici, hein, regardez un tout petit peu. Vous mettez ici Église. Et vous mettez ici vie contemplative. La vie contemplative, c'est la partie principale de l'Église. L'ousia, c'est la partie principale de l'être. Connaître le tiesti de l'ousia, c'est connaître le tiesti de l'être. C'est extraordinaire, ça. C'est très intéressant de voir ça. Oui. Si je veux connaître ce que c'est que l'Église, je dois connaître la vie contemplative. Parce que c'est la partie principale. pars principalis. La vie contemplative, c'est la partie principale. C'est saint Thomas qui dit ça. Alors, si on me dit ça aujourd'hui, ça fait hurler. C'est pas du tout, il y a autre chose. Mais oui, il y a autre chose. C'est évident, il y a autre chose que nous y a. Il y a les qualités, il y a les quantités, il y a les relations. Alors, vous situez toutes les autres choses dans la relation. Vous situez les choses dans la relation. Vous situez autre chose dans la qualité. Vous situez les autres choses dans la quantité. C'est très intéressant de voir ça, vous voyez. Ça va très loin, ça. Ça va très loin. Et ça nous, tout de suite, hein, ça nous met dans une situation nette. Connaître la partie principale, c'est connaître le tout. Connaître le tiesti de Lousia, c'est connaître le tiesti de toi. Je vous dis, faites l'application. Parce que là vous comprenez tout de suite. Hein, parce que ça vous touche. Votre sensibilité chrétienne. Vous voyez ? Alors, immédiatement, on comprend. Et si on veut connaître le tout, sans connaître la partie principale, on ne connaîtra jamais le tout. On connaîtra horizontalement. On ne connaîtra pas verticalement. Et donc, on ne creusera pas pour connaître vraiment ce que c'est. Bon, ceci, une mise entre parenthèses, c'est pour vous montrer que tout cela nous aide à rectifier notre intelligence, hein. La métaphysique rectifie profondément notre intelligence. Et quand nous ne faisons plus de métaphysique, nous restons au niveau des catégories. Et donc nous ne comprenons plus rien. Dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la théologie. Par le fait même, dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la théologie. Puisque la théologie ne peut se comprendre que si elle est métaphysique en dessous. Or ici, nous sommes au point de départ de la métaphysique. Vous savez ce que dit le vieil Aristote, et là aussi il a raison, quand il dit « une petite erreur à la source s'amplifie énormément lorsqu'il s'agit de se jeter dans la mer. » Une petite erreur à la source. En Suisse, il y a la source du Rhin et la source du Rhône. Et la source du Rhin et la source du Rhône ne sont pas tellement éloignées. Et quand on les voit les deux, comment se fait-il que d'un côté c'est le Rhin et de l'autre côté c'est le Rhône? C'est pas tout à fait la même chose comme fleuve, hein? C'est même très très différent. C'est deux physionomies tout à fait différentes. Et vous suivez la spiritualité du Rhône et la spiritualité du Rhin, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, la source est très. Il y a toute petite, pas grande différence. C'est des confusions, je sais pas ce qu'il y aurait. Alors, c'est la même chose. Une toute petite erreur ici va commander une immense erreur. Parce que vous êtes dans la première interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'usia? C'est beau, cette interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'usia? Alors, première chose, puisque c'est très difficile, on va d'abord déblayer le terrain, le bulldozer. On déblaye le terrain, ce qu'on fait, vous trouvez la. Une terre fondamentale sur laquelle on peut construire. Si vous construisez sur du terrain meuble, ça n'ira pas du tout. C'est la première tempête, ça va. Alors, le bulldozer, il y a un bulldozer métaphysique. Il faut le découvrir, le bulldozer métaphysique. Le bulldozer métaphysique consiste à écouter ce que les autres ont dit, en sachant, par définition, la plupart du temps, que les autres ont dit des choses intéressantes, mais un peu superficielles. Ordinairement, c'est ce qui se passe quand vous cherchez des opinions des philosophes antérieurs. À moins d'attaquer tout de suite les grands. Hein. Mais au fond, les opinions des philosophes antérieurs. Aristote regarde. Qu'est-ce que les philosophes ont dit devant le tiesti de Lousia? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Lousia était sujet. Les catégories. Vous revenez aux catégories. Ils ont dit que Lousia était forme. Platon. Ils ont dit que Lousia était l'universel. Les sophistes. Ils ont dit que Lousia était l'un. C'est encore les sophistes. Ou la tendance néo-platonicienne. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait ça, c'est point de vue. Aristote dit le genre et l'universel. Ça revient au même. Non, l'universel est le genre. Parmi le genre, c'est l'un. Alors, vous pouvez le mettre en plus universel, le genre. Alors, Aristote va d'abord commencer, le bulldozer, purifier le terrain. Le tiesti de Lousia n'est pas le sujet. Le tiesti de Lousia n'est pas la forme. Le tiesti de Lousia n'est pas l'universel. Le tiesti universel n'est pas le genre. Donc, quatre négations. Ça, c'est pas mal, hein? Déblayer le terrain. Déblayer le terrain. Ceux qui sont avant moi, Aristote aurait pu dire ça, mais il ne le dit pas, parce qu'il est très humble, alors il ne le dit pas. Ceux qui sont avant moi n'ont pas compris le tiesti de Lousia. Et je vais vous montrer ce que c'est que le tiesti de Lousia. Vous savez, un petit peu comme dans le banquet. C'est un petit peu analogue au banquet. Dans le banquet, alors dans le banquet, ça se fait sous une forme littéraire. Dans le banquet, Platon laisse parler toute une série de personnes sur ce que c'est que l'amour. Et quand Socrate arrive en dernier lieu, il dit, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris au tiesti de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Vous avez dit que l'amour, c'était le plus ancien des dieux. Ça, c'est Phèdre, le poète, le plus ancien des dieux. Vous avez dit que l'amour, c'est ceci, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et qui permet... Vous avez dit que l'amour... Mais vous n'avez pas dit ce que c'était que l'amour. Vous avez décrit les diverses modalités de l'amour, les diverses manières d'aimer. Mais vous n'avez pas dit ce que c'était que l'amour. Et Socrate arrive en disant, je vais essayer de préciser le tiesti de l'amour. Et Aristote fait exactement la même chose. Mais ce n'est pas écrit comme le banquet. Le livre Zeta pourrait être le banquet de Lousia. C'est très joli. Alors le banquet de Lousia, où on essaie de décrire qu'est-ce que c'est. Alors, il dit, alors, tout simplement avec vous, très rapidement, montrer comment... C'est intéressant, parce que c'est vraiment le bulldozer. C'est le levier métaphysique qui nous permet de soulever ces grosses pierres. Et de montrer que derrière ces grosses pierres, il y a Lousia. Mais Lousia n'est pas au niveau du sujet. Lousia n'est pas au niveau de la forme. Lousia n'est pas au niveau de l'universel. Lousia n'est pas au niveau du genre. C'est très intéressant, ça. C'est très astucieux, vous savez. Parce que Aristote veut nous faire comprendre que Lousia est ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Alors, avant l'être, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres premiers. Le premier dans l'ordre du devenir, c'est le sujet. Le premier dans l'ordre artistique, c'est la forme. Le premier dans l'ordre logique, c'est l'universel. Le premier dans l'ordre rhétorique, c'est le genre. C'est très curieux. Aristote situe tous les premiers. C'est là l'astuce, hein, de voir qu'au fond, ces devanciers sont restés en deçà de l'être. Ils ont regardé le premier dans l'ordre du devenir. Ça, c'est les physiciens. Ils ont dit que c'était le sujet. Ils ont regardé le premier dans l'ordre artistique. C'est la forme, c'est Platon. Ils ont regardé le premier dans l'ordre logique et dans l'ordre rhétorique. C'est les sophistes. Et on liquide, c'est le bulldozer. Hein. C'est extraordinaire de voir ça. La manière dont on liquide la situation pour aplanir, pour être en face de quelque chose de net, pour découvrir l'Europe. Le tiesti de Lousia ne peut pas être le sujet. Parce que le premier dans l'ordre de l'être n'est pas le premier dans l'ordre du devenir. Et vous voyez les confusions. Si je dis que le premier dans l'ordre de l'être, c'est le premier dans l'ordre du devenir, je dirais que le tiesti de Lousia, c'est le sujet. Et à partir de ce moment-là, je ne peux plus distinguer le devenir et l'être. Et si je ne peux plus distinguer le devenir et l'être, vous savez, je suis hégélien, dans l'ordre moderne. C'est ça, c'est la décoration hégélienne. Je suis hégélien. Parce que je confonds l'être et le devenir. J'identifie l'être et le devenir. Alors, Aristote dit, on ne peut pas identifier le tiesti de Lousia avec le point de vue du sujet, parce que si la substance, dans ce qu'elle est, c'est le sujet, il faut dire que la substance, c'est la matière. Or, la substance, selon les catégories, demeure quelque chose de parfaitement déterminé. Parce que le sujet, même s'il implique des indéterminations, est quand même quelque chose de déterminé. Donc, si la substance est sujet, le tiesti de la substance est sujet, elle doit s'identifier à la matière. Le sujet radical, c'est la matière. Dans l'ordre du devenir, c'est parfaitement vrai. Et dans l'ordre des attributions, c'est aussi très vrai. Le sujet au niveau grammatical, le sujet au niveau du devenir, c'est la matière, c'est-à-dire ce qui est parfaitement indéterminé. Or, ceci est en contradiction avec ce qu'est la substance qui implique au contraire un tout dit, ce qui est parfaitement déterminé. Vous voyez comment ? C'est ça le bulldozer. Hein ? Le bulldozer métaphysique, c'est ça. Où Aristote va écarter de la substance le point de vue de la matière. Très intéressant, parce que ça nous montre tout de suite, que confondre le devenir et l'être, c'est aller vers la dialectique matérialiste. Parce que si vous dites que le tiesti de l'ousia, c'est la matière, vous êtes obligé de conclure, à la manière de Lénine, que tout être, du fait même qu'il est, implique la matière. C'est la position de Lénine. Et il y a quelque chose de très curieux, cela. Parce que, de fait, on a identifié l'être et le devenir. Si vous identifiez l'être et le devenir, vous aboutissez nécessairement à un matérialisme. Hegel, Marx, Lénine. C'est une conséquence. Alors, il faut le saisir, ça. Et c'est intéressant de voir ça. Ici, c'est très net. Aristote, lui, au contraire, montre le tiesti de l'ousia ne peut pas être le sujet. Parce que le sujet conduit à la matière. L'absolu d'un sujet, c'est la matière. La matière.